Chapitre 4e, de l'Équateur au Brésil, coucher du soleil, Rio de Janeiro. Nous venons de sillonner l'Atlantique de l'Est à l'Ouest, et la monotonie de notre navigation ne s'est trouvée interrompue que par quelques-uns de ces incidents auxquels les navires ne peuvent échapper, dans une route longue et tracée. Des grains, des trombes, des rafales, des calmes, et puis le rapide passage des baleines voyageuses qui se promènent dans leur vaste empire. L'élégant damier voltigeant sans cesse sur la tête de l'équipage attentif et le stupide fou qui venait se poser sur une vergue et se laissait bêtement abattre comme si la vie lui était à charge. Et puis encore l'albatros, nommé poétiquement l'oiseau des tempêtes et mouton du cap. Maintenant, à votre zénith et plus rapide que la flèche, se perdant bien après à l'horizon et se jouant avec la vague écumeuse, la frappant de son aile robuste, comme pour insulter à son impuissant rage et s'élevant d'un seul bond jusqu'aux régions de la foudre, dont il se plaît à entendre le terrible roulement, le goéland, adroit pêcheur, planant immobile au plus haut des airs et tombant comme un plomb pour saisir sa nourriture, nageant entre deux eaux. Et puis encore, les myriades de marsouins, chassant devant eux les innombrables légions de poissons volants qui viennent s'abattre sur les porte-haubans du navire, et les élégantes frégates, orientées toujours selon le vent, et les méduses phosphorescentes qui éclairent l'espace, et les mollusques si variés, si curieux, qu'on prendrait tantôt pour des insectes ailés, et tantôt pour des grappes de raisins ou des bouquets de fleurs. Rien n'est perdu pour l'observateur dans cette traversée heureuse, où les études sont sans péril et sans fatigue. Pas une heure n'est lente pour qui veut voir et pour qui sait tenir un pinceau ou une plume. Mais ce qui fait fortement battre le cœur dans la poitrine, ce qui surtout fait vibrer l'âme et qui révèle la présence du Dieu de l'univers, ce sont ces admirables couchers de soleil après une journée ardente. Là-bas, là-bas dans un océan de feu, sur un ciel de feu, brillent, d'un jet à blesser la vue, les contours bizarres des nuages, se dessinant sous les formes les plus fantastiques. Ce sont des montagnes avec leurs crêtes arides, leurs volcans ouverts et en activité, sillonnés par des torrents de lave, s'effaçant et renaissant comme un jet d'optique qu'on admire sans le comprendre. Ce sont des armées ennemies qui se ruent, turbulentes, les unes contre les autres, et font jaillir au loin 1 000 000 000 d'étincelles dans leur terrible choc. Ce sont des plaines à perte de vue, des champs de blé nourrissant la flamme sans l'assouvir. Ce sont des villes immenses avec leurs dômes, leurs clochers, leurs minarets, leurs tours, leurs citadelles, et tout cela bâti sur le feu, avec du feu. Ce sont des charbons ardents au sommet. Partout, le ciel est l'enfer. Partout, un brasier immense dans lequel le navire va bientôt s'engouffrer. Oh oui, je vous l'atteste, un beau coucher de soleil sur un ciel tropical est le plus imposant, le plus majestueux spectacle dont l'homme puisse jouir. Tempête, ouragan, calme, naufrage, la mémoire peut tout oublier. Personne n'oubliera un beau coucher du soleil sous la zone torride, car si toutes les tempêtes offrent le même chaos, si tous les calmes ont la même tranquillité, nul coucher du soleil ne ressemble à celui de la veille, nul ne ressemble à celui du lendemain. Dieu est là, grand, incommensurable, éternel. Cette fois, à coup sûr, les premiers navigateurs qui sont allés à la recherche de ce nouveau monde, si hardiment deviné par Colomb, ont dû se croire arrivés au terme de leur course à l'aspect de ces puissants phénomènes, devant lesquels l'âme tombe en adoration. Comme eux aussi, nous avons souvent crié terre. Mais une heure après que le soleil s'était plongé dans les flots, l'illusion s'effaçait, l'horizon devenait une réalité, et nous nous retrouvions désenchantés entre le ciel et l'eau, attendant une brise plus vigoureuse qui vint offrir un nouvel aliment à notre curiosité. Cependant, si le point est exact, si les courants ne nous ont pas drossés, nous devons ce matin voir devant nous la terre découverte par le Portugal Cabral. « La voilà en effet, terre !» crie la vigie à cheval sur le Beaupré, « terre de l'avant !» Chacun est sur le pont, l'œil à sa longue vue et interrogeant l'horizon. La corvette fend les flots et le point signalé s'élargit, montre sa forme tranchée, se dessine bientôt, et les heures de langueur et d'ennui s'effacent dans ce premier moment de joie et d'ivresse. Le cap Frio a levé la tête, comme pour nous indiquer la route de Rio. Derrière lui, la terre, que nous longeons à l'aide seulement de peu de voiles, est unie, basse, sans aspérité, couverte d'une végétation vierge et gigantesque. Autour du bord, voltigent quelques oiseaux de terre, dont les ailes faibles et paresseuses n'osent pas s'éloigner du rivage, ce sont toujours là des visiteurs bien reçus, bien fêtés, car ils apportent de bonnes nouvelles, du calme, du repos. Pendant la nuit, nous avons viré de bord, malgré le présage d'un ciel protecteur. Et au lever de l'aurore, nous mettions le cap sur Rio de Janeiro, cité royale, où nous laisserons bientôt tomber l'ancre pour la seconde fois. Je dessine la côte. Elle est partout d'une richesse merveilleuse, et je mets la dévotion du zèle à en reproduire le plus fidèlement possible les contours bizarres et variés. L'entrée nous est signalée par deux petites îles, dont l'une s'appelle île Ronde, sans doute parce qu'elle est carrée, et entre lesquelles tout navire peut hardiment prendre passage. Voici le pain de sucre, rapide, aigu, sans verdure. C'est le pied d'un géant qui doit servir de point de mire au navigateur. La tête est là-bas, à l'ouest de la rade, tête bien dessinée, avec son front découvert, sa chevelure, vaste forêt. Son œil, gros humide, son nez, pic osseux, et son menton déprimé. Puis vient le cou, figuré par une large vallée, puis les pectoraux dominant une roche taillée en forme d'épaule et de bras, puis l'abdomen, puis la cuisse, le genou, la jambe et enfin le pain de sucre dessinant le pied. C'est un véritable géant, couché sur le dos, plus ou moins allongé, selon la position du navire, mais toujours taillé comme l'eût fait un statuaire. Je ne saurais trop recommander au capitaine la vue si heureuse et si singulière de cette chaîne de montagnes, afin qu'il ne puisse pas manquer l'entrée de l'immense rade, que le pied du géant leur indique d'une manière exacte et précise, mieux encore que ne le ferait un phare. La joie est sur tous les visages, l'avidité dans tous les regards, chacun debout, curieux, attentif, excepté Petit et Marchais, assis sur la drôme, élevant les épaules de pitié, à notre impatience et à nos cris d'admiration. Des nuées de papillons de mille couleurs se jouent parmi les cordages, luttent entre eux de variété, de coquetterie, résistent à la brise de mer qu'ils repoussent et pénètrent avec nous dans le golfe où ils viennent d'éclore. Ces nouveaux hôtes sont respectés comme les riches oiseaux de la veille, et nous saluons enfin, bord contre bord, cette terre du Brésil, dans laquelle l'Atlantique s'est ouvert un passage comme pour donner asile au navire qu'elle vient de tourmenter. Le goulet est bientôt franchi. Nous entrons dans la rade. Quel ravissant spectacle! Ni la superbe Gênes avec ses palais de marbre et ses jardins suspendus, ni la riante Naples avec ses eaux limpides, son Vésuve et ses villas si fraîches, ni Venise, la riche avec son architecture mauresque, ses coupoles et ses ciselures, ni même le Bosphore avec ses immenses dômes, ses kiosques et ses minarets, jusqu'aux nues, n'offre à l'œil étonné un plus magnifique panorama. À droite, à gauche, devant nous, derrière nous, une nature puissante étale ses coquettes richesses de toute l'année. Des arbres d'une hauteur surprenante, des îles joyeuses, semées pour ainsi dire dans toute l'étendue de cette masse d'eau limpide sur laquelle passent et repassent des myriades de papillons voyageurs, gris, jaunes, rouges, diaprés. Un ciel plus haut, peuplé de perroquets criards et d'élégantes perruches, de goélands et dessins nombreux et craintifs d'oiseaux-mouches, qu'on prendrait pour des abeilles, s'ils n'étaient trahis par l'or, les émeraudes et les rubis de leur plumage. Et puis des anses, dominées par des églises à l'architecture bizarre. De délicieuses habitations éparses çà et là, à demi voilées en quelque sorte, par des plantations de palmistes et les larges parasols des bananiers. Et puis encore, des milliers de pirogues, allant d'une praia à l'autre, lancées à l'aide de la courte pagaie du nègre esclave, qui hurle son chant national pour se donner du courage. Vous voyez encore là une immense forêt de mailles de pavillons de tous les pays du monde, une ville grande et belle, un superbe aqueduc qui la domine et l'alimente. Dans le lointain, posé là comme une barrière puissante aux envahissements de l'Atlantique, les montagnes des Orgues, avec leurs aiguilles si aiguës et si régulières, qu'on les dirait taillées par la main des hommes. Oh, tout cela est magnifique, imposant, radieux, tout cela ne peut se décrire, c'est assez de l'admirer. À peine est-on arrivé dans un pays nouveau, que l'on veut tout voir, tout étudier, tout connaître, les fleuves et leurs richesses cachées, la terre et ses trésors, les hommes et leurs mœurs. On craint de manquer d'air ou de courage ou de patience. Les heures volent si vite dans l'étude de la méditation. Voici donc le Brésil, terre féconde parmi les plus fécondes du globe. On dirait une nature à part, une nature privilégiée. Pour s'enrichir, la cupidité n'a qu'à respirer, car la brise de mer, qui souffle le matin, vous donne des forces contre la chaleur du jour, et le vent de terre, qui a traversé les hautes montagnes de l'intérieur, vous fallit oublier le soir la température d'une zone écrasante. Ici nagent trop de poissons dans les rivières, trop d'oiseaux volent à l'air, trop de fruits pèsent sur les arbres, trop d'insectes glissent sous l'herbe. Ici, les montagnes cachent des pierres précieuses, les ruisseaux roulent des paillettes d'or et de diamants aussi beaux que ceux de Golconde. Au Brésil, point de ces maladies épidémiques ou contagieuses qui déciment les populations et dont le souvenir seul est un fléau. Si vous aimez une vie indolente et tranquille, si pour vous le repos est le bonheur, suspendez votre hamac au tronc écaillé des palmistes ou cherchez une douce habitation près de la plage frappée par le flot paresseux. Mais si vous craignez la monotonie des plaisirs exempts de péripéties, restez chez vous, vieillissez chez vous, car au Brésil, chaque matin de la veille ressemble au matin du lendemain. Et vous croiriez que le nuage qui passe aujourd'hui sur votre tête est le nuage qui est venu hier vous protéger de son ombre ou vous rafraîchir de sa rosée. Au Brésil, on dirait que cette nature forte et vigoureuse qui pèse sur le sol est la même depuis des siècles et qu'elle ne se renouvelle jamais. Elle est verte, diaprée, riante. C'est une richesse de ton à décourager toute palette. C'est un parfum suave, c'est un silence mystérieux qui pénètre l'âme et la pousse à la rêverie. C'est une quiétude qui repose sans énerver. C'est un demi-rêve, un demi-réveil. On sent glisser doucement la vie sur les pores, on aspire l'air, on se laisse mollement aller au repos du sommeil, comme si le jour devenait de la fatigue, et l'on s'assoupit au sifflement et au cri aigu des insectes et des colibris, comme à un céleste concert, qui ne meurt que longtemps après que le soleil s'est couché sous l'horizon. Je vous ai parlé, je crois, de l'aqueduc qui, partant du pied vierge du Corcovado, descend et serpente de colline en colline, garde fraîche et limpide la source qu'il a reçue à sa naissance et alimente toute la ville. Cet aqueduc aura aujourd'hui ma première visite et je vais le suivre dans toutes ses sinuosités. De loin, on dirait un ouvrage des Romains au temps de leur grandeur. Mais en se dépouillant de toute prévention, on n'y voit qu'un travail de patience et d'utilité publique. Le courant d'eau arrive à une colline voisine, à l'aide d'un double aqueduc où l'on compte 42 arcades à l'étage supérieur et qui offre un aspect assez monumental. Du pied du couvent de Sainte-Thérèse jusqu'au flanc déblayé du Corcovado, cette armure de briques et de grosses pierres bien cimentées, long d'une lieue et demie, haut de 4 à 5 pieds, lié par une voûte à un autre mur parallèle, le tout servant de rigole au courant d'eau. De temps à autre, de petits jours carrés sont pratiqués sur les parois, et à chaque 100 pas de distance, un petit bassin latéral, où l'eau tombe par un tuyau de plomb, a été creusé pour les besoins des piétons et des voyageurs. Pour qu'il s'ait fait une juste idée des mœurs paresseuses des Brésiliens, cet aqueduc est une œuvre grandiose qui fait l'éloge du prince sous lequel il a été bâti. Après 2 heures de marche à travers les sites les plus bizarres et les plus pittoresques, j'atteignis l'extrémité de la bâtisse et je me reposai quelques instants sous un magnifique bertholletia ombrageant la nappe d'eau qui, s'échappant de la végétation puissante où elle était prisonnière, coule en liberté sur un tuf dur et poli où les curieux ont l'habitude de faire halte avant de gravir le Corcovado. La journée était avancée et au lieu de m'enfoncer dans cette masse informe et compacte de verdure qui me dominait, je me décidai à renvoyer au lendemain la course instructive que j'avais projetée, et descendant de coteau en coteau, je repris la direction de la ville à travers champs et plantations de caféiers, de bananiers et d'orangers. Je vous l'ai dit, le Brésil est un immense jardin. À peine avais-je marché pendant une demi-heure que je me trouvai comme enfermé dans un enclos au milieu duquel était bâtie une petite maisonnette peinte en vert et entourée d'un treillage au travers duquel serpentaient des fleurs riche de couleurs éblouissantes. J'avais soif. Je m'avançai vers la porte d'entrée et j'appelai. Personne ne me répondant, je supposai que le maître de l'habitation serait assez poli pour me pardonner mon indiscrétion. Je mis le doigt sur le loquet et j'ouvris. Quel ne fut pas mon étonnement! Un magnifique portrait à l'huile enrichi d'un beau cadre arrêta mes regards. C'était celui d'un général français, dont l'uniforme était décoré de crachats, de la croix d'honneur et de plusieurs ordres étrangers. À sa main droite était une lettre cachetée. Sur une table, près de lui, on voyait le plan d'une ville de guerre, d'un port. La figure du vétéran se dessinait fière et calme sur un large rideau de soie verte. L'œil interrogeait, le front méditait, et la large contraction qui faisait baisser les 2 coins de la bouche annonçait le dédain mêlé à un peu de colère. Dans le lointain pointait la cime vaporeuse de quelques mâts pavoisés. J'allais appeler encore, quand un vieillard appuyé sur sa bêche et arrivant du dehors me frappa sur l'épaule. « Que voulez-vous ? »
« Eh quoi, des paroles françaises ?»«
À la bonne heure, vous êtes français aussi ? Et vous ?»«
Tête, bras et cœur à la France. » »«
Quel est ce portrait ?»«
Ce portrait, celui d'un général lâchement calomnié. Il a été aide de camp de l'empereur et gouverneur dans les deux hémisphères.
Il fut le probe défenseur d'une ville opulente confiée à la garde de son honneur et de sa fidèle épée, que vous voyez là-bas, rouillé, inutile. Ce portrait, gage d'amitié de Napoléon, est celui d'un homme qui a voulu vivre pour protéger la mémoire de l'empereur. C'est le général Hogendorp. C'est moi. » Je serrai fortement la main du soldat et m'assis près de lui sur un canapé d'osier. Dieu, que l'exil change les hommes. Les yeux du brave défenseur de Hambourg étaient à demi éteints. De profondes rides sillonnaient son front et ses joues amaigries. Ses cheveux étaient rares. Son teint hâve, brûlé. Le malheur n'avait rien épargné, ni l'âme, ni le corps. Il y avait de la misère dans cette haute charpente qui s'était roidie contre tant d'orages, mais une misère noble et dignement supportée. Hogendorp était une de ces ruines graves et solennelles devant lesquelles on ne s'arrête que le front découvert. Nous gardâmes quelques instants le silence, lui pour savoir qui j'étais, moi pour attendre quelques nouvelles confidences. Cependant, afin de chasser de sa mémoire les douloureuses idées qui semblaient le poursuivre, je lui dis mon nom, la mission dont j'étais chargé, l'heureux hasard qui m'avait conduit chez lui, et je lui demandai un verre d'eau. « Et de vin aussi, monsieur, si vous voulez. Je suis maintenant marchand de vin d'orange et charbonnier. Ils ont dit là-bas que j'avais volé une banque, et à peine ai-je pu solder mon passage jusqu'au Brésil. Ils ont publié que je possédais en ce pays des plantations immenses et que je commandais à 300 nègres. » Zinga est mon seul domestique. Si vous faites 50 pas autour de cette maison, bâtie par moi, vous aurez parcouru tout mon domaine. Si j'ai sur mes épaules une blouse à peu près neuve, c'est que je l'ai achetée avec le prix du vin d'orange que je fabrique. Si j'ai les souliers à mes pieds, c'est que j'apporte du charbon à la ville et que le commerce est l'échange du superflu contre le nécessaire. Demandez-moi donc, monsieur, du mauvais vin, des oranges, des bananes, mais ne me demandez pas de pain. Le général français n'en a pas aujourd'hui. Le pauvre exilé avait lu dans mes regards tout l'intérêt qu'il m'inspirait et m'en remercia comme d'un bienfait. « Vous reverrai-je, monsieur ?»«
Oui. » »«
Consentirez-vous à jeter un coup d'œil sur les mémoires que j'écris ?»« De toute mon âme. »« Je vous les confierai, monsieur. »« Votre nom est une garantie de probité, et de retour en France, vous les publierez, si vous le jugez convenable. »« Ce que je veux qu'on sache avant tout, c'est que je suis pauvre, malheureux, exilé, près de la tombe, mais que je renaîtrai fort et jeune. » Si mon pays avait encore besoin de moi. Adieu, monsieur.
Non, général, au revoir.
Au revoir, donc. N'oubliez pas votre promesse. Je vous attends. Le jour baisse. Voici mon nègre, mon brave Zinga, le seul compagnon de ma vie solitaire. Je ne puis vous offrir un hamac. Suivez vite ce sentier et doublez le pas, car des esclaves pourraient vous arrêter si vous rencontrez loin de la ville. La nuit me surprit en route. Nuit étoilée, rafraîchissante, harmonieuse surtout par son silence et ses parfums, réveillée à de courts intervalles par les soupirs demi-voilés de quelques oiseaux de nuit et le bruissement régulier de la vague qui venait expirer sur le bord. Il était près d'une heure quand j'arrivai au débarcadère où nulle pirogue ne stationnait. J'allais m'acheminer vers la rue de Ovido pour chercher un asile quand la voix glapissante d'un esclave arrêta mes pas. Le malheureux portait dans une petite corbeille une vingtaine de gâteaux. Seul et debout à côté de la fontaine élevée en face du palais royal, il poussait vainement son cri, perdu dans le silence. Je m'approchai de lui. « Que vends-tu là ?»«
Des gâteaux. »«
Je serais bien reconnaissant si vous vouliez m'en acheter 4. »«
Pourquoi 4 ?»«
Parce que si je n'en vends pas 4 encore, je recevrai en rentrant 25 coups de chicotte. »« Mais il est bien tard et personne ne t'achètera des gâteaux à cette heure-ci. »« Vous êtes compatissant, vous m'en achèterez. »«
Et si j'achetais tout ce que tu as là ?»
Alors j'aurai 3 jours de grâce et je prierai le bon Dieu pour vous. Tiens, prie le bon Dieu pour toi, mange ces gâteaux et dis à ton maître que tu les as vendus. Le pauvre esclave allait vivre 3 jours entiers sans craindre le fouet. Avant de frapper à la porte de l'hôtel de France, où je comptais passer la nuit, je me retournai et j'aperçus dans les ténèbres un objet qui, pareil à un fantôme, semblait suivre mes pas. « Qui va là ? » dis-je d'une voix forte. « C'est moi, bon maître, » me répondit-on, « c'est moi. » Je vous ai suivi en mangeant les gâteaux. Les nègres marrons auraient pu vous attaquer. Ils m'auraient tué avant vous.